Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Quel plaisir de se retrouver pour ce début de semaine à quelques jours maintenant, puisque nous sommes le 15. Dans 10 jours, ce sera le jour de Noël. Mais quel plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Alors, au sommaire de ce programme, d'ici quelques instants, David Ochala sera en compagnie du père Michel Dauban, le recteur du sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes, pour parler de l'information et du sanctuaire. On reviendra bien sûr sur le 8 décembre et sur les fêtes de Noël. Et puis, nous parlerons et nous irons, grâce à notre correspondant Benoît Guillard, qui est allé ce week-end sur les lieux de blocage avec les agriculteurs. Pourquoi manifeste-t-il? Pourquoi bloque-t-il? Eh bien, vous le saurez bien sûr si vous restez avec nous. Et on pense bien sûr à tous ces agriculteurs si ils nous écoutent. On parlera bien sûr de l'information avec l'actu à milieu de journée. Et puis, nous aurons bien sûr, comme chaque semaine, le magazine De Passage à Lourdes. De Passage à Lourdes, Mathias Terrier sera avec une très belle très bon invité. On parlera de l'âme de joie donc dans ce programme. Mais tout de suite, nous allons faire un point sur l'actualité. On va retrouver les titres de cette actu et en cette semaine. C'est Wassim Dir qui, pour nous, va nous parler donc et nous présenter cette actualité.
La colère monte dans les campagnes d'Occitanie. Éleveurs et syndicats protestent contre la gestion jugée trop stricte de la dermatose nodulaire qui frappe les troupeaux bovins. À Toulouse, le RN se positionne pour les municipales de 2026. Julien Leonardelli, député européen et figure locale du parti, sera le candidat frontiste face au maire sortant. Au CHU de Toulouse, l'IA révolutionne la cardiologie. Les opérations deviennent plus rapides, plus précises et plus sûres pour les patients. Après un an de rénovation, le château de Laurency à Buzy-sur-Tarn rouvre ses portes publiques. Deux dîners-concerts intimistes sont prévus le 16 et 17 janvier prochain. Gaorock 2026 frappe fort pour ses 30 ans. Major Lazer, Gims, Big Flo Oli ou encore Vald enflammeront Marmande du 26 au 28 juin prochain. À Castanet, 8 agents territoriaux montent sur scène pour célébrer le service civique. Berry Wam, de retour sur scène. Le quatuor toulousain présente son nouvel album à la cabane ce soir. Le TFC est irrésistible. Victoire 3-0 au Paris FC. Gbo signe un doublé et la formule semble trouvée.
Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 12h30 pour l'essentiel de l'actualité de notre région pour cette mi-journée. Dans quelques instants, on retrouvera le père Michel Dauban, le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, micro de notre directeur David Ochala pour nous parler, pour revenir sur le 8 décembre et également donc de parler de Noël. Après avoir écouté Schengen de Raphaël Laroche, merci de votre fidélité. Puis peut-être bon appétit si vous êtes à table. Prudence sur la route, vous êtes bien sûr Radio Présence. Et puis on parlera aussi du monde agricole qui est en colère.
Je suis parti d'un bout du monde. J'étais trop grand pour me courber. Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. J'ai marché le long des routes, ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. Tellement de nuit sous la paupière, tellement de forêts abattues. Même sous la mitraille et le fer, moi je leur ai rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je suis là, moi, je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. Ce que je fais là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans. C'est pas la croix, pas la manière. Depuis la terre, on y revient. Moi j'ai un ordre de barbarie et je vais pourrir leur pays. C'est pas avec la bombe atomique, c'est pas avec les tours de France qu'ils me mettront de leur côté quand j'aurai fini ma croissance. C'est que je suis là, moi, mais je sais pas. Je voulais juste marcher tout droit. C'est que je suis là, moi, mais je sais pas. Je pense à toi depuis mille ans.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a célébré le 8 décembre, magnifiquement, et maintenant il se dirige évidemment sur les festivités de Noël, avec également en ligne de mire cette date du 31 décembre qui sera la clôture du jubilé de l'espérance. Pour en parler, nous sommes avec le père Michel Dauban. Bonjour père.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire. Évidemment, cette fête du 8 décembre, cette solennité de l'Immaculée Conception est un point d'orgue de ce mois de décembre, avec cette grande fête mariale, mais déjà, il faut se tourner vers Noël et préparer Noël. Alors, je crois que on a déjà entendu dire que de mémoire de Lourdes, on n'avait jamais vu un si beau sapin de Noël sur l'esplanade. Vous avez souhaité mettre un accent particulier, une belle mise en valeur des fêtes de Noël cette année. Pourquoi ?
Alors, c'est encore mieux que ça. Moi, j'ai entendu qu'on n'avait jamais vu tout court un aussi beau sapin de Noël sur l'esplanade. Alors, pourquoi nous avons souhaité mettre en valeur particulièrement ce temps ? Et peut-être que ça s'inscrit aussi peut-être dans la grisaille du temps aussi, l'importance de mettre en valeur la fête et de nous donner des motifs de réjouissance avec le cœur de notre foi qui est la venue du Fils de Dieu sur cette terre, et de fait cette fête de Noël, peut-être qu'on ne se réjouit jamais suffisamment, d'ailleurs peut-être que on ne la célèbre jamais suffisamment, et donc l'idée c'est de la mettre en valeur dans un écrin constitué par toutes les animations qui ont été prévues, que ce soit effectivement ce beau et grand sapin devant la Vierge couronnée, que ce soit la crèche qui est mise devant le parvis de la basilique de Notre-Dame du Rosaire, que ce soit à travers les animations pour les petits et les grands qui vont se succéder là jusqu'à Noël.
Ce sapin, il est originaire du bois de Lourdes, à 2 km du sanctuaire. Il était dédié à la coupe, hein. On allait le couper.
Oui, j'aime bien dire que à Lourdes, on accueille tous les malades sans exception, y compris les arbres, puisqu'effectivement cet arbre était destiné à être coupé, et donc finalement, puisqu'il devait être abattu, autant en profiter et le donner une belle fin de vie, en étant devant la Vierge couronnée et en suscitant l'admiration des pèlerins.
L'admiration des pèlerins se fait aussi avec les illuminations du sanctuaire, avec un chapelet au flambeau tous les soirs, et puis évidemment avec les célébrations de Noël. Toutes ces informations sont à retrouver sur le site internet du sanctuaire de Lourdes, tout le programme détaillé des propositions, des spectacles également qui seront donnés, des scènes théâtrales par la communauté du Cénacolo de Lourdes. Mais Père Michel Dauban, juste un point sur cette nuit de la Saint-Sylvestre qui nous amène à la fête de Marie, Mère de Dieu. C'est l'occasion pour Lourdes de clôturer le jubilé de l'espérance. Cette date n'est pas choisie au hasard.
Alors, depuis quelques années, c'est une tradition dans le sanctuaire de Lourdes que de faire en sorte qu'il y ait une messe qui soit célébrée à 23h pour aller jusqu'à l'orée de l'année nouvelle, présidée par notre évêque, avec beaucoup de monde, beaucoup de diocésains qui viennent. Et cette année, de fait, c'est non seulement le changement de millésime de l'année, du 5 on va mettre un 6, mais également l'occasion effectivement de clôturer cette année jubilaire pour effectivement y mettre un terme en beauté, après avoir été ressourcés dans cette espérance qui nous vient de la foi et que nous avons eu l'occasion de méditer, de célébrer, de réfléchir. Oui, ce sera donc effectivement une belle fête, même si sûrement il fera un petit peu froid à 23h à la grotte de Massabielle, mais ça fait rien, les cœurs seront chauds.
Merci Père Michel Dauban.
Je vous en prie.
Voilà pour la chronique sur l'information religieuse, et cette fois-ci c'était le sanctuaire comme tous les lundis. Un grand merci au recteur du sanctuaire, le Père Michel Dauban, et à David Tourchala. Nous allons dans quelques instants partir sur les barricades avec les agriculteurs de notre région. Mais avant cela, on écoute Sanglia Gratuite. Ils sont de chez nous, du Haute-Pyrénées, ce groupe, et ils chantent très très bien. Et donc on le retrouve tout de suite.
Présence à Bourdeuil, 94.
On est compères, au pain comme deux frères, deux joyeux compères, les deux qui font la paire. On est compères, au pain comme deux frères, deux joyeux compères, les deux qui font la paire. Déjà pour au temps de la maternelle, on pouvait se voir sans l'avis de nos paternels. 50-20 kilos, fiers sur nos vélos, l'envie du rapace, la carrure du moineau. Les années, les filles n'ont pas pu nous séparer. On a merdé les unes, les autres on les échangeait. On n'a pas changé malgré le temps qui passait. Même nos marmots savent très bien qu'on est compères, compères qu'on veut de frères, de joyeux compères, les deux qui font la paire. On est compères, compères qu'on veut de frères, de joyeux compères, les deux qui font la paire. Comme un nouveau-né qui veut déployer ses ailes, y a eu des coups bas, des coups durs et des querelles. Chacun son sillon, mais rendez-vous au refrain. Toujours des copains comme les doigts de la main. La vie de famille nous a pas trop séparés. Chacun son histoire, oui, mais sans s'éloigner. Chacun son réseau, toujours partagé. Même nos moitiés savent très bien qu'on est compères, copains comme deux frères, deux joyeux compères, deux cons qui font la paire. On est compères, deux joyeux compères, les deux qui font la paire. Même sans se voir, on est comme un miroir. Ça donne un peu d'espoir, ça fait du bien d'avoir. Pas que des amis virtuels, une vraie vie bien réelle. L'aventure est si belle. Copains comme deux frères, deux joyeux compères, les deux qui font la paire. On est compères, copains comme deux frères, deux joyeux compères, les deux qui font la paire. Compères, compères, les deux qui font la paire. Compères, compères, deux joyeux compères qui font la paire.
Déjà pour les temps compères, de la maternelle, on pouvait se voir sans la vie de nos paternels. C'est comme bien sur nos vélos, l'envie du rapace, la carrière du moineau.
On est compères, copains comme deux frères, deux joyeux compères, les deux qui font la paire. On est compères, copains comme deux frères, deux joyeux compères, les deux qui font la paire. Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba.
Présence à Cajarc, 97.7.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore avec Benoît Guillard pour la Chronique Verte. Cette semaine, j'ai fait le choix de me rendre sur les barrages organisés par nos éleveurs sur le département des Hautes-Pyrénées, barrage de l'autoroute 64, donc dans le contexte de la dermatose dont on entend tous parler. Donc je voulais un petit peu aller à la rencontre des agriculteurs, des éleveurs, pour comprendre un petit peu ce qui se passe et voir ce qu'on peut faire. Bonjour Grégory, juste deux mots de présentation.
Bonjour, je m'appelle Grégory Audouin, je suis secrétaire général de la DSEA 65 et aujourd'hui je suis sur les plans de... sur les plans de blocage.
Vous pouvez peut-être expliquer à nos auditeurs un petit peu les raisons ou la raison de cette colère ?
Mais la raison de cette colère aujourd'hui, c'est la dermatose nodulaire contagieuse. Nous, agriculteurs, on n'accepte pas aujourd'hui l'abattage total de nos troupeaux, sachant qu'on ne sait pas où va la maladie. Aujourd'hui, il y a des cas qui sortent de partout. On a demandé, nous, la vaccination, la FDSEA 65, le 8 octobre. On n'a eu aucune réponse de la préfecture ni de la ministre. Aujourd'hui, on a demandé à la ministre un protocole qui est similaire au protocole de l'Ariège, qui a été déposé hier soir en main propre aux mains du préfet. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un blocage jusqu'à mardi, on donne un ultimatum à la ministre de nous donner une réponse jusqu'à mardi, et si mardi nous n'avons pas de réponse, nous changerons complètement de stratégie.
Alors si j'ai bien compris, vous êtes FDSEA, mais en fait c'est tous les syndicats, c'est une première peut-être ?
Voilà, c'est une première historique en fait, c'est tous les syndicats, les 5 syndicats confondus du département, on s'est mis tous autour d'une table, on est tous unanimes là-dessus, on n'acceptera pas ce protocole.
C'est l'occasion peut-être aussi d'interpeller les citoyens, tout simplement, parce qu'on parle bien sûr de la crise agricole, on parle de la difficulté des agriculteurs, mais en fait, les acteurs principaux autour de vous, c'est aussi les gens qui habitent autour de vous, les consommateurs, les acteurs qui peuvent consommer et défendre leur agriculture.
Nous, on n'est pas là pour embêter le citoyen, on est juste là pour exprimer notre colère et montrer notre mécontentement. Et on essaie justement de garder ce lien avec les citoyens.
D'accord. Et dans la perspective donc jusqu'à mardi, donc ça veut dire que vous allez continuer à bloquer les entrées de l'autoroute A64 jusqu'à mardi ?
Toutes les entrées et sorties des autoroutes du département seront bloquées jusqu'à mardi inclus.
Bon, c'est un mouvement d'ampleur qui prend une ampleur nationale aujourd'hui, puisqu'on voit partout où il y a eu des situations de dermatose, des territoires qui se mobilisent.
Ben, c'est surtout là une ampleur au niveau de l'Occitanie, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, nous l'Occitanie, la région Occitanie, on est le plus faible revenu de France, avec un revenu moyen de 11 000 euros chez un agriculteur. Je ne sais pas qui peut vivre aujourd'hui avec 11 000 euros par an, quoi.
Tout à fait. Donc dans le contexte justement de tout ce sud-ouest, là, ce grand sud-ouest et ce massif pyrénéen, où les éleveurs sont quand même nombreux encore aujourd'hui, effectivement il y a beaucoup de difficultés et de difficultés financières, hein, dans le contexte actuel. Vous souhaitez quoi sur l'avenir, vous, en tant qu'éleveur ?
Nous, sur l'avenir, en tant qu'éleveur, là, justement, on demande à créer une ceinture vaccinale sur tout notre secteur pour éviter que la maladie se propage. En fait, en gros, nous, les agriculteurs ici de ce département, et il n'y a pas de département limitrophe, on se sacrifie pour sauver les autres éleveurs des autres départements limitrophes. Donc, c'est pour ça qu'on demande une vaccination massive dans notre département et les départements limitrophes pour sauver, justement, le cheptel français plus haut que nous.
Alors peut-être pour bien expliquer à nos auditeurs, dans le contexte actuel, lorsque une zone est touchée en termes de commercialisation de la viande, est-ce qu'il y a des impacts ? Et si oui, lesquels ?
Les impacts sont énormes. Aujourd'hui, depuis hier, pardon, tout animal est interdit de bouger du département, interdit de circuler. Donc c'est un impact énorme aujourd'hui. Surtout que nous, ici, beaucoup font du broutard. Les broutards partent pour l'exportation. Aujourd'hui, il n'y a plus d'exportation. On doit garder les animaux sur nos fermes. Avec la sécheresse qu'on a vécue cet été, le manque de bouffe, il est considérable. Donc on ne sait pas avec quoi on va les faire manger et on ne sait pas comment on va les tenir, quoi.
En sachant que le blocus, c'est combien de jours, là ?
Le blocus pour la...
Pour les transports des animaux ?
Ah ben là, on est parti au moins pour 4 semaines, hein, minimum. Et après, une fois qu'il faut que la vaccination soit finie, après il y a un protocole, après la vaccination, on verra. Mais là, pour le moment, c'est minimum 4 semaines, il n'y aura rien du tout.
Oui, ça veut dire donc au-delà des élevages directement impactés où il y a la question de l'abattage, c'est aussi toute la région qui est impactée en termes d'économie, puisque 4 semaines sans pouvoir vendre des broutards, c'est 4 semaines sans trésorerie, c'est 4 semaines sans pouvoir payer ses charges.
Ah ben là, c'est 4 semaines pour le moment du temps de mettre la vaccination en place. Vendre des broutards, c'est encore autre chose. Pour vendre les animaux, on parle plus de questions de mois que de semaines. Donc c'est l'économie agricole du territoire là, qui est en train de s'effondrer totalement, quoi.
Oui, en sachant que vos clients ils sont aussi à l'étranger, puisqu'il y a un export sur l'Italie et l'Espagne, et ça veut dire que ces gens-là ils vont avoir besoin de rentrer des animaux et donc ils vont aller ailleurs.
Mais là, notre crainte elle est là, quoi. Mais bon, on espère que quand même ils n'iront pas ailleurs, parce que on sait, l'Italie, l'Espagne, c'est très bien qu'aujourd'hui on est les seuls capables en France à leur fournir des jeunes bovins d'une qualité comme ils recherchent. Donc ça risque d'être compliqué pour eux de trouver aussi la qualité que nous on leur fournit, quoi.
Alors on sait qu'il y a une exploitation à un éleveur qui est touché dans les Hautes-Pyrénées. Bon, c'est un stress, c'est terrible pour lui. Est-ce que vous, en tant que syndicat, vous faites un accompagnement par rapport à la personne qui est touchée ou sa famille ?
Un accompagnement, oui, il y a des syndicats qui ont été. La Chambre d'agriculture a fait un accompagnement aussi. Mais bon, aujourd'hui, voilà, la crise, mais le vilain de la chose est passé. Les bêtes ont été abattues hier. Il faut respecter aussi l'éleveur. Donc c'est compliqué aussi de gérer tout ça. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que certains éleveurs veulent qu'il y ait du monde, d'autres ne veulent pas qu'il y ait du monde chez eux. Donc c'est vraiment la première des choses. Nous, notre mot à tous les syndicats confondus, c'est le respect de l'éleveur.
Et dernière question, et merci encore pour votre disponibilité. La dernière question va justement vers cette ministre de l'Agriculture. Donc tout le monde se mobilise pour qu'elle soit en capacité d'écouter et de comprendre. Votre espoir, c'est quoi ?
Mais notre espoir aujourd'hui, c'est qu'elle change son fusil d'épaule. Notre protocole, il est vraiment sérieux. Il n'est pas sorti comme ça de sous le chapeau. Il est réfléchi. Donc aujourd'hui, on pense que c'est la bonne solution.
Merci infiniment. Hein. Votre prénom ?
Jean-Yves. Donc moi, je suis du secteur viticole. J'arrive de près de Bordeaux, de petite commune de Moulis, dans le Médoc. Donc moi, en fait, j'ai 53 ans. C'est la première fois que je suis sur un rond-point et que j'ai voulu aller manifester. Je suis parti hier matin de Bordeaux à 6h. Je me suis rendu à la ferme Les Bordes, là où on a battu les 200 bêtes en Ariège. Donc j'étais là-bas et je suis arrivé vers 10h quand j'ai vu qu'il n'y avait plus rien à faire, que les agriculteurs étaient partis. Donc du coup j'ai cherché un point de rassemblement sur mon retour. Donc c'était Tarbes depuis hier soir. Donc depuis hier soir je suis ici avec eux. J'ai dormi ici au rond-point là cette nuit. Et là je repars ce soir. Mais je reste aujourd'hui mobilisé toute la journée pour les soutenir. Voilà. Donc nous, le secteur de la viticulture ne va pas bien aussi. On est en train de mourir à petit feu. Ce que je comprends pas, c'est que pour l'instant, dans notre secteur viticole, on a l'impression qu'on est dans le déni. On veut pas voir la réalité en face. On n'en parle pas entre nous. La viticulture, là, je sais pas ce qui se passe. On n'en parle pas. C'est la politique de l'autruche. On veut pas voir. Mais en fait, on voit plein de propriétés autour de nous qui sont en train de disparaître. Ou même, il se passe plus rien. Hein, c'est-à-dire que même les vignes sont même pas arrachées, sont laissées à l'abandon. Il y a des secteurs où les salariés commencent à être licenciés dans les propriétés. Donc c'est vraiment très très grave, hein, et voilà, il faut, à un moment donné, il faut s'unir et puis être solidaire de ce monde agricole, parce qu'on sait très bien que la France est belle, mais que ces agriculteurs là sont là pour aussi rendre ce pays magnifique. Sans compter que, bon, c'est pareil au niveau alimentaire, c'est quand même important qu'on ait la souveraineté alimentaire. On est capable de faire de très belles choses dans ce pays, que ce soit les fromages, les vins, tout ce qui est alimentation en règle générale, et pas que, hein, d'ailleurs. Mais voilà, la France est très belle, mais il faut se réveiller et puis il faut surtout, il faut tout faire pour qu'on n'aille pas dans le mur, parce que là on va vers le chaos comme ça, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça.
Je crois que c'est un message important que vous portez, parce que bon, c'est un peu aussi l'objectif de cette émission, c'est de dire aux auditeurs qu'il faut qu'on bouge tous ensemble, quoi, hein. Dans ce contexte, cette société, elle ne changera que si chacun est convaincu qu'il faut que ça change.
Exactement, je pense que tout le monde souffre aujourd'hui. La seule solution, malheureusement, c'est d'employer les rapports de force. Hein. On le voit d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, hein, que ce soit avec l'Ukraine, avec les Américains, Poutine. On voit très bien qu'on est en permanence dans des rapports de force. Et malheureusement, il n'y a que ça qui fait bouger les lignes. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Hein.
Voilà. Bravo en tout cas et merci. Madame, je peux aussi vous interroger sur votre mobilisation. Vous êtes la seule femme, hein, donc votre mobilisation et pourquoi vous êtes là tout simplement.
Les agriculteurs, ils nourrissent qui ? Ils sont là pour qui ? Voilà. Là, c'est le moment que tout le peuple se réveille, parce que de toute façon, tous les secteurs sont touchés. Quand on voit la corruption gouvernementale, la corruption de Bruxelles, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut arrêter.
Un ras-le-bol
complet, mais c'est général. Mais par contre, ce qu'on attend, c'est le peuple. Tout le peuple avec nous, et là, on y va, on fonce. Parce qu'il faudra que les choses bougent. On ne peut pas rester comme ça.
Vous habitez les Hautes-Pyrénées ?
J'habite Tarbes, oui.
Vous habitez Tarbes ?
Oui.
Donc,
ok.
J'ai pas pris votre prénom, pardon, excusez-moi.
Béatrice.
Donc Béatrice, vous êtes mobilisée, vous. Vous avez envie que tous les Tarbais viennent sur le rond-point, ici ?
Toute la France se bouge. Il est temps de se réveiller et de se lever.
Et alors, comment il faut faire pour les réveiller, les Français ? Dites-moi.
Disons que si les médias n'étaient pas achetés par là-haut, les vraies informations seraient diffusées. Et là, il y aurait du monde. Et la vérité, surtout. Ouais. Voilà.
Donc, il est temps que tout le monde se réveille, c'est ça ?
Oui. Que tout le monde se bouge, toute la France.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Juste une petite question. Si le ministre, la ministre de l'Agriculture ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer ?
Je pense que là, c'est en train de se bloquer un petit peu partout sur les autoroutes. Et je pense que là, avant les fêtes, on va connaître des fêtes de Noël, à mon avis, mouvementées. Hein. Ouais. Je pense que les gens sont remontés. Il y a un ras-le-bol général. Et là, je pense que ça va aller mal. En plus, ils ont utilisé, vous avez vu en Ariège, hein, ils ont utilisé des blindés, ils ont tiré des bombes acrymo depuis l'hélicoptère. Donc, c'est des moyens complètement disproportionnés. Les agriculteurs, c'est pas des voyous, c'est des gens qui se lèvent tôt le matin et qui travaillent beaucoup. Donc, les prendre comme ça, comme des voyous, c'est inadmissible. Vous inquiétez pas, on prend pas les blindés et les bombes acrymo pour aller dans les cités, pour aller empêcher de vendre de la cocaïne aujourd'hui. Hein. Donc qu'ils aillent plutôt dans les cités, plutôt que d'emmerder les agriculteurs. Quoi. Moi je pense que là franchement ils sont remontés, ils ont raison et je pense que ça va aller mal. Hein. Ça va aller très mal.
Il faut ajouter aussi quelque chose. Il y a BFM TV qui était sur place. Elle a dit que les agriculteurs étaient armés, etc. C'est complètement faux. Il y a des images, il y a des faits. Donc on ne peut rien dire sur des faits et des images. Donc les médias, pour moi, sont pratiquement tous achetés. Voilà. Et là, c'est vraiment de la colère. Et les gens, de toute façon, le savent. Il faut arrêter de les prendre pour des cons. Voilà ce que j'avais ajouté.
Ouais. Et alors vous, pour terminer, qu'est-ce que vous souhaitez ?
Qu'est-ce que je souhaite ? Moi, je souhaite qu'on soit écoutés dans ce pays. On n'est plus écoutés maintenant. Voilà, on a des politiques, je pense qu'ils sont tous du même côté, de droite, de gauche. Pour moi, je les mets tous dans le même panier, ces gens-là. Parce que regardez tout ce qui se passe là, personne n'a fait rien. Personne n'a réagi. Ils ne font que parler, ces gens. Ils font quoi après ? Voilà, c'est ça qui me met en colère, moi. Non, alors qu'on a normalement, on les paye pour nous aider. Voilà. Et non, c'est pas ça qui se passe.
Merci en tout cas, chers auditeurs. Donc on sent bien que la crise est profonde, la colère est là, elle est forte. La mobilisation se fait petit à petit et on sent bien que c'est une vague qui monte. Et donc, bah, écoutez, je pense que vous êtes sensibles aussi à ce qui se passe. Chacun pourra peut-être faire un geste pour manifester justement le soutien à ce mouvement, à ces éleveurs et à cette agriculture qui souffre.
Merci à Benoît Guillard pour bien voilà ce reportage sur les barrages qu'on peut vivre dans notre région. Soutien, voilà, les mots ont été crus de la part des agriculteurs. Chacun fera son opinion. Nous allons poursuivre dans quelques instants avec le magazine de passage à Lourdes avec Mathias Terrier. Mais tout de suite, on va retrouver l'actualité de la mi-journée qui nous est présentée par un élève de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et cette semaine, c'est Wassim Dir.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Un grand bonjour, Wassim.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde agricole était en colère hier. De la Haute-Garonne à l'Aveyron, les éleveurs manifestent contre la gestion de la dermatose nodulaire, maladie touchant le bétail. Barrage filtrant sur les axes principaux, rassemblement devant les préfectures, les actions se multiplient. Les manifestants dénoncent des mesures sanitaires trop strictes, jugées dangereuses pour leurs exploitations. Les syndicats réclament aussi un plan d'urgence et menacent de durcir le mouvement sans réponse de l'État. À Toulouse, le Rassemblement national mise sur un visage bien connu du paysage politique local pour les municipales de mars 2026. Julien Leonardelli, 38 ans et député européen, portera les couleurs du parti dans la Ville Rose. Une candidature qui pourrait bouleverser le scrutin, alors que le maire sortant redoute une percée inédite de l'extrême droite au second tour. Au CHU de Toulouse, les cardiologues misent sur l'intelligence artificielle pour gagner en précision et en temps lors des opérations. Grâce à une modélisation 3D fidèle du cœur du patient, ils peuvent mieux cibler les zones à traiter lors des ablutions. Résultat, des interventions plus sûres et plus rapides, désormais réduites de 5 à 2 heures. Le château de Laurentie à Buzet-sur-Tarn en Haute-Garonne propose deux dîners-concerts à la bougie en janvier prochain. Après un an de rénovation, le château de Laurentie retrouve vie. Lieu d'événements privés et professionnels depuis 2025, il s'ouvre désormais au grand public. Les 16 et 17 janvier prochains, deux dîners-concerts intimistes à la bougie marqueront cette nouvelle étape. Une occasion unique de découvrir ce lieu historique dans une ambiance musicale et chaleureuse. Après avoir dévoilé les premiers noms de sa programmation le 2 décembre dernier, le festival Garo Rock enchaîne fort pour sa 30e édition. Du 26 au 28 juin 2026, à Marmande, Major Lazer montera pour la première fois sur scène au festival aux côtés de Gims, Big Flo Oli ou encore Theodora, Les Viagra Boys, Vald, Vladimir Cauchemar, Toji Four, Maureen et Dub Inc. complètent une programmation explosive mêlant électro, rap et reggae. Demain soir, 8 agents territoriaux deviendront comédiens le temps d'un soir à la salle Jacques Brel de Castanet-Tolosan. Avec humour, ils dévoileront les coulisses de leur métier dans le spectacle Territoriaux en scène. Une première en Occitanie organisée par la CNFPT pour valoriser celles et ceux qui font vivre le service public local au quotidien. Suivi par 30 millions de fans sur les réseaux sociaux, Berry One sort un nouvel album et repart en tournée. Le quatuor Beatness, Ritmind, Wawad et Beastie dévoilent un nouvel album et repart en tournée à travers la France. Un concert affichant complet à la cabane à Toulouse est prévu ce soir. Une occasion pour le public de redécouvrir leur virtuosité vocale et leur énergie scénique, mêlant son électro, rap et pop avec la bouche et rien d'autre. Enfin, les Toulousains étaient en mission à Paris. Le TFC a confirmé son statut d'équipe solide en s'imposant 3-0 sur la pelouse du Paris FC. Après un pénalty manqué, Sidi B se mue en passeur pour Hidalgo, avant que Gbo ne signe un doublé. Cresswell veille derrière, tandis que le trio Hidalgo, Gbo et Emerson font des merveilles.
Voilà, merci beaucoup à Wassim Dir de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et merci à tous ces élèves qui ont un partenariat avec Radio Présence et qui viennent vous présenter l'actualité de notre belle région. On va retrouver tout de suite Mathias Terrier, comme nous le faisons chaque semaine pour le magazine De Passage à Lourdes.
Présence De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Hervé de Lantivy, qui marche depuis Rome et qui se rend à Compostelle à pied, s'est arrêté quelques jours à Lourdes et nous l'avons dans cette émission. Il est notre invité. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Merci de prendre quelques minutes avec nous. Vous prenez quelques heures et quelques jours de repos à Lourdes alors que vous marchez depuis Rome et que vous vous rendez à Compostelle. Et on va voir une démarche très très particulière qui vous est propre et que vous avez déjà accomplie durant 2000 kilomètres auparavant, puisque vous avez également accompli un chemin, un pèlerinage vers Compostelle il y a quelques temps déjà. On vous doit un livre qui s'appelle « Une prothèse vers Compostelle ». Dont je signale qu'il est préfacé par Laurent de Cherizet et paru aux éditions Salvator. Il raconte votre histoire, une histoire dont on pourrait dire qu'elle est cabossée, douloureuse. On a compris par le titre que vous marchez, et vous marchez avec une prothèse. Tout bascule en 1987, alors que vous avez un accident de moto.
C'est ça, oui.
Mais vous ne vous doutez pas que vous allez être amputé quelques années.
Non, ça, je vais attendre.
À ce moment-là, vous êtes quoi ? Vous êtes militaire ?
Voilà, je suis militaire. J'ai choisi de partir donc au Liban. Et c'est un accident tout bête. Il me restait une semaine de perm à prendre et je suis parti à Chypre. Et j'ai loué une moto et la veille de mon départ, j'ai repris ma moto et puis là, il y a une voiture qui m'a froidement coupé la route. Et j'ai percuté donc cette voiture en plein fouet, et ce qui m'a valu quand même à peu près 2 ans d'hôpital. Et de nombreuses opérations, et en fait j'ai eu le pied par la jambe complètement complètement traumatisé et notamment la paralysie complète de mon pied gauche. Donc j'avais plus de sensibilité. Et donc après, bah, j'ai repris ma vie d'avant, ma vie.
Oui, là à ce moment-là, vous après la convalescence, vous pensez que tout pourra redémarrer, non pas exactement voilà, comme non, avant, mais presque.
Voilà, oui.
Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas aussi bien que vous pensiez. Il y a des infections, il y a un problème.
Voilà, c'est donc à partir de 2010, là, j'ai eu de grosses complications d'infections. En fait, j'avais les mêmes symptômes qu'un diabétique sans l'avoir. Étant donné que j'avais plus du tout aucune sensibilité au pied, dès que je me faisais une égratignure, ça partait en infection. Donc là, à partir de 2010, j'ai eu des infections en série avec des interventions chirurgicaux. Et en 2018, il y a un staphylocoque qui me montait sur ma prothèse du genou. J'avais une prothèse déjà. Et ce qui fallait donc repartir sur une série d'opérations sans avoir la certitude de récupérer ma jambe à 100%.
Et là, vous demandez l'amputation.
Et là, donc, là, j'en pouvais plus. J'ai demandé l'amputation. Donc, bien sûr, avec, je me suis renseigné quand même à droite et à gauche, notamment avec le prothésiste qui fournit donc les prothèses. Et puis voilà. Et puis après, j'en ai parlé à ma famille, à ma femme, à mes enfants. Et on a décidé un peu tous ensemble, quoi. Donc. Et puis en novembre, j'ai dit, bah là, je prends cette décision et je me suis fait amputer donc fin novembre 2018.
Et à partir de ce moment-là, vous pensez que vous allez pouvoir rebondir, de la résilience, l'énergie, et vous reprenez en main votre entreprise, vous voulez continuer comme avant?
Oui, voilà, je veux continuer comme avant parce que moi, je me sentais un homme fort. Je me suis tellement battu avant pour éviter toutes les épreuves que j'ai pu avoir. Donc, je me dis, bon, ça va revenir comme je faisais auparavant. Donc,
vous avez une entreprise de paysagiste.
Voilà, exactement.
Avec des employés, avec une activité.
Voilà, exactement. Et ouais. Puis, je me dis, bon, je vais pouvoir surmonter les deux. Donc, j'avais demandé à mon médecin, donc à le médecin chef du service de rééducation, que je resterai pas plus de 4 semaines à l'hôpital et puis après que je sois en hôpital de jour pour que je puisse gérer mon entreprise l'après-midi. Donc voilà, donc en fait c'est parti comme ça et puis bah je travaillais à tête baissée entre la rééducation et l'entreprise. Et puis un jour, bah, ça craquait, j'ai fait un burn-out. Et en octobre, fin octobre ou début octobre 2019, je me suis trouvé devant un mur infranchissable.
C'est-à-dire psychologiquement, c'était rideau, quoi.
Rideau.
Il n'y avait plus rien réagissait non. En vous.
Ouais, et là, j'ai tenté de mettre fin à ma vie. Et ça, après, c'est un autre combat, parce que là, on tombe vraiment au fond du trou. On est complètement désemparé, désorienté. On est pris de honte de mon amour propre. Là, on prend un sale coup. Là, on devient plus bas que terre, c'est terrible. La honte que j'avais envers ma femme, envers mes enfants, surtout un de mes enfants qui m'a retrouvé quand même inanimé. Donc, faut savoir se reprendre, mais pour se reprendre, c'est très très compliqué. Voilà. Et puis il y avait quand même le souci envers Dieu. Moi qui est catholique, pratiquant, et je savais que l'Église quand même condamne le suicide. Donc c'est très compliqué psychologiquement à lier tout ça. Donc j'ai eu la grâce d'être soutenu par mes proches, par tous les psychologues, parce qu'après je suis allé à un hôpital donc psychiatrique dans le centre de Bretagne, ce qui m'a quand même beaucoup aidé. Et puis après il a fallu remonter la pente avec une certaine fermeté, parce que là je me suis dit il faut que tu reprennes, il faut pas te laisser aller reprendre ton avenir, te reprojeter sur ton futur.
Dans ces moments-là, on s'accroche à quoi ?
Bon, on s'accroche à ce qu'on peut s'accrocher, à tout. C'est-à-dire
un peu de médical, la
un
famille,
peu de médical, la famille, le Seigneur,
le Seigneur.
Voilà, tout ce qui est bon à prendre, on prend.
C'est comme un mur de parapente, et puis on essaie de trouver un endroit où accrocher.
Voilà, exactement, c'est
la
ça.
Main.
Voilà.
Oui. Se retenir.
Mais tout ça, c'est assez difficile à expliquer. Voilà, alors il y a quelques mots qui nous redonnent du moral, que ce soit chez un psychiatre, que ce soit même des amis, des gens qui savent dire un mot quand il faut, quoi. Quand voilà, donc tout est bon à prendre, quoi. Mais c'est très long. Voilà.
Est-ce que vous diriez qu'il vous a fallu 2000 km à pied, c'est-à-dire votre premier périple, hein, celui qui vous amenait déjà à Compostelle, pour enfin avoir la tête hors de l'eau et commencer à retrouver une joie de vivre ?
Alors déjà pour commencer, ce pèlerinage, je l'ai fait, en fait, juste avant mon opération, 10 minutes avant, j'étais sur le bloc. J'ai fait un vœu. Et je me suis dit, si je remarche correctement, je partirai seul à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Et en fait, ce vœu, je l'ai pensé. Alors, ne me dites pas comment il est arrivé, parce que je serais capable de vous répondre.
Mais vous n'avez pas pu l'accomplir pendant un long moment.
Voilà, et puis il est sorti de mon esprit. Et c'est justement après cette tentative de suicide et mon passage à un hôpital psychiatrique, c'est... Où ce vœu est revenu. Et là, je me suis dit, il faut que tu réalises ton vœu. Et donc ça, j'ai décidé de le faire. Donc en 2020, je me suis dit, là, il faut que tu partes seul. Donc j'ai préparé mon petit périple, hein, comme j'ai pu. Et puis, j'ai pris la décision de partir le 8 mars 2021. Donc,
vous êtes parti de chez vous ?
De chez moi, de Sainte-Anne-d'Auray.
Au lieu de pèlerinage,
voilà,
si l'on est.
Voilà, exactement. Donc c'était pour moi, c'était assez symbolique. Je partais d'une basilique pour arriver à une cathédrale, et pas n'importe laquelle. Et donc je suis parti donc le 8 mars. Et comme je l'indique dans mon livre, mon premier chapitre, c'est l'inconnu du chemin, parce qu'on part. Je savais où était bien sûr Saint-Jacques-de-Compostelle, mais j'avais aucune idée comment le chemin allait se dérouler. J'avais aucune expérience et j'avais pas cette expérience de randonneur. Je ne marchais pas avant. Donc j'allais devenir pèlerin sans avoir connaissance réellement ce qu'était le chemin en lui-même.
Et puis vous aviez un défi double, défi physique. C'est déjà difficile.
Et j'avais ce défi.
C'est
voilà,
déjà
physique.
Difficile de le faire, voilà. Mais de surcroît vous avec une prothèse.
Et j'avais mes doutes. J'ai eu mes doutes avant de partir, parce que quelques jours avant de partir, parce que là je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Tu vas partir à Saint-Jacques, il te manque une jambe, ça fait que 2 ans et demi que t'es amputé. En fait, je me disais, mais tu vas peut-être même pas réussir à faire ta première journée, tu vas peut-être craquer. Et j'avais peur de m'ennuyer pendant le pèlerinage.
De vous ennuyer.
Mais bien sûr, parce que marcher, je me disais, mais marcher pendant 8 heures ou 10 heures, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à marcher, tu vas penser à quoi moi qui suis quelqu'un assez actif, donc moi il faut que ça bouge, il faut. Donc ça, j'avais cette crainte-là, et puis j'avais aussi les craintes des blessures qu'elle allait provoquer, donc l'emboîture de ma prothèse au niveau de mon moignon, parce que ça, je savais que ça allait se faire. Mais en fond de moi, je me suis dit, en fait, c'est grâce, je dirais, à cette amputation que j'ose partir à Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que sans elle, je ne serais jamais parti. Donc pour ça, pour moi, c'était une force de pouvoir commencer ce chemin.
Vous dites ça avec beaucoup d'émotion,
oui, oui.
Le livre s'intitule « Une prothèse vers Compostelle ». Il est signé Hervé de Lantivie et paru chez Salvator. Je propose qu'on s'arrête quelques instants et puis on reprend ce dialogue avec vous, Hervé, si vous le voulez bien.
Merci.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Merci Hervé de Lantivie de vous livrer un peu, de nous raconter un peu de votre histoire, mais si on veut tout le récit, en fait, je pense que on l'a dans le livre qui est paru aux éditions Salvatore, Une prothèse vers Compostelle, ouais, dont le titre dit bien, en fait, de façon très synthétique, la démarche. Vous êtes amputé, vous nous en avez fait le récit dans la première partie de cette émission, vous nous disiez que, bah, après un accident de moto, des années où tout va à peu près correctement, mais des complications ensuite, vous finissez par demander l'amputation, parce qu'il vous semble que la souffrance est trop grande et qu'il n'y a pas d'autre chemin possible, et les médecins, hein, vous accompagnent dans ces réalités. Il y a eu des moments très douloureux dans votre vie, au plan même psychologique. Est-ce que vous pourriez dire que le chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, c'est l'histoire de votre résurrection ? Sans que vous vous rendiez compte de cela, quelque part, en fait, vous sortez la tête de l'eau, quoi.
Oui, bien sûr. Déjà, quand j'ai pris cette décision de vouloir partir, je suis parti pour être confronté à moi-même, pour réfléchir à mon passé, justement.
À votre comportement.
À mon comportement, à cette tentative de suicide que j'avais pas élucidé encore. J'en parlais à personne, à part à mes proches, mais c'était encore pour moi une honte et un peu un dégoût de ma personne. Donc je pensais que ce chemin allait justement m'ouvrir à d'autres personnes pour que je puisse me libérer, je dirais, de ce secret que j'avais.
Et ça l'a fait durant des 2000 kilomètres que vous avez fait ou...
Non.
Non, même pas. 2000 kilomètres pour
non,
rien ?
Non, j'ai pas réussi à me délivrer, et comme je le disais à l'instant, c'est certainement par honte et surtout par orgueil. J'ai parlé de mon burn-out, mais j'ai jamais parlé de ma tentative de suicide. Et pourtant, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on dit qu'on se... c'est le meilleur chemin où on peut se livrer. Parce que tout simplement, on peut parler à un inconnu, on peut se livrer à lui, parce qu'on est certain d'une chose, c'est de jamais le revoir. Donc c'est beaucoup plus facile de se confier. Mais même ça, j'ai pas réussi. J'ai rencontré deux prêtres en Espagne, et là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Il y avait une Française qui était avec moi, donc j'ai pas voulu l'impliquer, je dirais, dans la discussion. Et puis je me suis dit, tiens, le lendemain, je vais leur demander que je puisse marcher avec eux, et là, justement, de parler de mon secret. Et là, je me suis dit, non, ils sont pressés, je vais les retarder. Mais en fait, c'est une mauvaise excuse que je me donnais, parce que j'étais pas prêt encore à me livrer. Et je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle avec ce poids. Et c'est là où je me suis dit, en fait, t'as fait Saint-Jacques et t'as pas réussi à te livrer.
Mais vous l'avez toujours, ce poids ?
Non, parce que j'ai réussi à me délivrer après Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il y a trois phases sur le chemin. Vous avez l'avant, le pendant, l'après. Et l'après, c'est l'après-chemin. L'après-chemin. Et déjà, le retour est assez difficile. Vous marchez 3 mois. Après, vous revenez, je dirais, dans la civilisation. Donc, dans le chemin, vous êtes vraiment enfermé. Donc, vous êtes dans une bulle de contemplation. Vous pensez qu'à vous. Vous avez, vous ne souciez plus de ce qui peut se passer à côté. Vous revenez chez vous. C'est vraiment très brutal, hein. Donc ça a été assez compliqué à gérer. Et au retour, donc ma femme m'a accueilli donc à Saint-Jacques-de-Compostelle, du moins à Fisterrin. Et on est revenu un peu sur le chemin que j'avais fait à l'aller. Et on s'est arrêté à Saint-Jean-Pied-de-Port où j'étais accueilli donc dans un gîte. Et on a été revoir donc ce responsable. Et je lui ai dit, tu sais, moi, l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, ça n'a pas été un de mes meilleurs souvenirs, parce que j'ai trouvé que l'arrivée est très, très brutale. Parce qu'on met 3 mois pour arriver, et vous arrivez devant la cathédrale.
Il y a un monde fou.
Voilà, il y a un monde fou, vous mettez à genoux, vous remerciez le Seigneur, vous remerciez Saint-Jacques. Mais là, vous vous apercevez que, eh bien, c'est terminé. Et que demain, vous ne marcherez plus pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très brutal. Et que moi, personnellement, j'ai pas apprécié. Alors, après, bien sûr, c'est autre chose. Après, la joie est revenue. Mais le moment même, ça n'a pas été un de mes meilleurs souvenirs. Et cette personne qui s'appelle Eric Viotte m'a dit, tu sais Hervé, l'arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle n'est pas la fin de ton pèlerinage, mais que le début. Et cette phrase, je l'ai compris 3 mois après. Je suis reparti marcher à côté de Vannes, à Radon, donc sur le bord de la mer. Puis à un moment, je me suis assis sur un banc et là, j'ai vu, il y a une personne qui est venue me voir, une femme. Et puis on a commencé à parler et puis elle me dit à un moment, c'est votre prothèse qui vous rend triste. Et puis là, je lui ai répondu, non, c'est ma tentative de suicide. Et là, j'ai tout déballé.
L'inconnu que vous cherchiez durant le chemin de Saint-Jacques, vous l'avez trouvé là.
Voilà. Mais ça, c'est grâce à mon cheminement. Donc, pour moi, je trouve que le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, me concernant personnellement, ça a été une résurrection. Parce que j'ai su me libérer de cet acte, je dirais, inqualifiable. Et sans ce cheminement, je serais peut-être encore prisonnier de cette tentative. Donc mon chemin m'a libéré, oui.
Est-ce que le regard de votre famille, de vos proches, de votre épouse, de vos 4 enfants, il est très important? Vous l'avez vu changer aussi?
Oui, bien sûr.
Cette honte dont vous parlez, c'est aussi vis-à-vis d'eux, hein, d'après ce que je comprends.
Ah ben bien sûr, et puis ma famille, mes proches ne m'ont
jamais abandonné.
Jamais abandonné, jamais jugé.
Jamais jugé.
Voilà. Et ça, c'est très important. Et mes amis aussi. Vous savez, quand dans ce cas-là, les amis se comptent sur les doigts d'une main. On peut avoir beaucoup d'amis, mais quand il y a un gros problème qui arrive, hop, il y en a beaucoup.
Le vide se fait.
Le vide se fait. Et vraiment, les très bons amis ont su être proches de moi et sans me juger.
Arrêtons-nous quelques instants sur la question de la foi. Vous pourriez être révolté contre le bon Dieu en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait pour tomber si bas?
Mais j'ai été révolté, bien sûr. Oui.
Vous l'avez eu, cette révolte?
Bien sûr, j'ai eu cette révolte parce que je n'ai pas compris. Je vous suis depuis tellement longtemps et vous me laissez, vous m'abandonnez. Vous m'avez accompagné dans ma faiblesse et ça, je ne comprenais pas au début. Et justement, après, je me suis dit, c'est peut-être un message qui m'a apporté en disant que, justement, s'il faut, peut-être pas grâce à cet acte que j'ai eu, mais c'est ça qui va te redonner une force supplémentaire pour poursuivre.
Vous êtes quelqu'un d'autre aujourd'hui?
Oui, je suis quelqu'un d'autre parce que
vous étiez chef d'entreprise suractif, vous avez été militaire, vous nous l'avez dit.
Voilà, maintenant aujourd'hui, je vois la vie autrement. Un petit quelque chose peut me rendre la vie beaucoup plus heureuse.
Vous avez tout de même décidé de repartir, de marcher de nouveau, de Rome jusqu'à Compostelle.
Voilà.
Ça n'était pas suffisant, les 2 000 km?
Bien sûr, ça aurait pu être suffisant et puis passer à autre chose. Mais en fait, quand vous goûtez au chemin... Déjà, le chemin, il faut l'apprendre à l'aimer. Et pour aimer le chemin, eh ben, il faut le respecter. Et pour le respecter, il faut se respecter soi-même. Donc, quand on a compris ce déroulement, le chemin, en fait, on devient amoureux du chemin. Et c'est addict. Moi, je pensais qu'une chose, c'était de
repartir.
De repartir, ouais. Et ça, pour le comprendre, il faut vraiment partir sur le chemin. Et là, on va comprendre. C'est tout ça grâce, je dirais, aux rencontres qu'on peut faire et à marcher seul. Parce qu'en fait, marcher seul, on ne s'embête pas. On ne s'ennuie pas.
Alors, ce que vous avez ajouté dans ce deuxième périple, c'est tout de même de marcher pour les autres. Parce que vous disiez combien vous étiez dans votre bulle sur le premier,
voilà,
le premier acte de marcher. C'est 2000 km que vous faites en partant dans la Bretagne pour aller jusqu'à Compostelle. Mais maintenant, vous marchez pour une association qui s'appelle L'Âme de Joie.
Voilà, ça, c'est une association.
Donc, vous êtes ouvert, là. Vous n'êtes plus dans votre
bulle. Bien sûr, parce qu'on m'en a tellement donné que je me suis dit, maintenant, c'est à moi de donner.
Quelle est cette association, L'Âme de Joie?
Donc, L'Âme de Joie, c'est une association donc, qui est basée dans le nord de la France, à côté de Lille, et qui fournissent gracieusement des lames de course en carbone pour les enfants qui sont amputés. Alors ces lames de carbone permettent en fait aux enfants de refaire du sport. Donc là, ils peuvent rejouer.
Donc lame, ça s'écrit L-A-M-E-S.
Voilà, exactement.
Là, comme des lames.
Comme des lames, oui, oui. Voilà.
De joie.
Voilà. Et donc, ces lames ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Et ils ont un coût de 2500 euros. Et un enfant est obligé de changer, d'échanger tous les 18 mois à cause de sa croissance. Donc, il y a des familles qui sont dans la capacité de pouvoir... offrir ça à ses enfants. Et donc cette association justement permet de leur fournir des lames. Et en fait c'est un peu le système d'une banque. Ils donnent la première lame, quand au bout de 18 mois ils récupèrent la lame pour la redonner à quelqu'un d'autre. Et en fait ça fait un roulement, et ça jusqu'à leur adolescence. Une fois l'enfant est complètement formé, ils repartent avec une lame qu'ils auront à vie, quoi, définitivement.
Est-ce que c'est un sens nouveau à votre vie que vous vous donnez aujourd'hui en aidant la jeunesse qui est en difficulté ou en amputation? Vous venez de nous parler de lame de joie. Une attention nouvelle que vous portez à toutes les fragilités et les handicaps?
Bien sûr, parce que moi je suis passé par là. Et on m'a aidé. Donc maintenant, c'est un peu à moi d'aider les autres. Donc c'est un peu un retour à l'envoyeur. Et ça, je le fais avec beaucoup de plaisir et d'amour pour le chemin. Donc c'est presque naturel, quoi. Voilà.
Vous êtes de passage à Lourdes. Avant de repartir, là...
Ouais, demain soir.
Le lieu est porteur au plan spirituel. C'est pas
bien
un
sûr,
lieu qui
ouais.
laisse indifférent,
bien
Lourdes.
Sûr,
ouais.
Ouais. Bah, Lourdes, c'est quand même... Lourdes sera toujours lourde, avec sa grotte, avec les miracles qu'il a pu avoir, toutes ces personnes qui viennent pour Lourdes, c'est pas innocent. On vient pas à Lourdes comme on vient à Biarritz sur la plage, c'est tout à fait différent. Donc même, je dirais, pour les gens qui sont pas catholiques, ils viennent à Lourdes, peut-être par curiosité, mais il y a quelque chose qui les fait venir à Lourdes, c'est pas innocent. Lourdes reste très symbolique.
Vous repartez, vous reprenez le chemin, parce qu'il vous reste combien de kilomètres encore à accomplir?
Eh bien là, j'ai accompli 2000, et il doit m'en rester à peu près 1100 à faire.
Vous avez du courage pour les 1100 qui restent? Oui.
Oui, parce que c'est le chemin qui nous porte, donc on avance. On avance sereinement.
On prendra de vos nouvelles sur Facebook, je pense que
vous postez sur
votre page.
Une prothèse vers Compostelle.
Une prothèse vers Compostelle. C'est aussi le titre du livre qui est paru chez Salvator, préfacé par Laurent de Chérizet. Et donc on vous souhaite bon courage, parce que au-delà du côté addictif de la marche dont vous nous parliez, il y a quand même beaucoup de souffrance dans cette histoire-là, parce que marcher avec une prothèse.
Oui, ça c'est une souffrance que j'ai.
C'est pas simple tous les jours.
Voilà, c'est pas simple tous les jours, mais on arrive à surmonter.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Hervé de l'Antivie. Et puis on recite aussi le nom de l'association L'âme de joie, comme l'âme L-A-M-E-S, des lames.
Voilà, exactement.
De joie, et donc ça fait allusion à une des prothèses un peu sportives, on a compris, pour les jeunes.
Voilà.
Vous tapez sur Internet l'âme de joie, je pense qu'on tombera sur.
Vous tapez une prothèse vers Compostelle, l'âme de joie, vous allez tomber directement sur le site.
Bon courage pour la suite, au revoir.
Merci, au revoir.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur Internet, radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Présence à Saint-Gaudens, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Assez des violences antisémites, nous devons éliminer la haine de nos cœurs. Les mots du pape ce matin au lendemain de l'attentat sur la plage de Bondi à Sydney.